Et oui, merci Vincent. C'est parti pour Allô, ici Bouvard, jusqu'à midi avec vous, Philippe Bouvard, sur RTL. Bonjour Philippe.
Bonjour Isabelle, bonjour vous tous. Ah, je voudrais vous dire d'abord que je suis heureux de vous retrouver.
Moi aussi.
Oui, heureux, et ça n'est pas une formule de politesse ni une clause de style. C'est le cri du cœur d'un presque nonagénaire qui est très attaché à ses auditeurs qui, depuis 53 ans, constitue sa seconde famille et très attaché aussi à un travail qui est devenu au fil des années une véritable passion. Alors, je voudrais vous dire qu'il s'est passé beaucoup de choses cet été, qu'il y a eu une actualité extraordinaire et que mon bonheur tient à ce que je suis encore en état d'apporter quelques réponses aux questions que tout le monde se pose. Et pour commencer, le voyage sur Mars, est-il raisonnable de maintenir une exploration qui va coûter aussi cher? On parle de 217 milliards de dollars et qui ne pourra pas comporter de retour faute de station-service sur la planète rouge. Alors, comme chaque fois qu'on aborde ces questions de cosmos, je vais me tourner vers Francis Rocard, qui est le responsable de ces questions spatiales au sein de notre organisme qualifié. Bonjour Francis Rocard.
Bonjour.
Alors, est-ce que, j'anticipe sur votre réponse, est-ce qu'il faut y aller, c'est-à-dire aller mourir, puisque le retour sera très problématique, aller mourir à 75 millions de kilomètres de son domicile habituel, ou bien rester les pieds sur Terre?
Alors écoutez, il y aura évidemment une mission aller-retour. On ne va pas y faire un aller simple, ça c'est totalement illusoire. Et la NASA, M. Trump et le Congrès américain, aujourd'hui, disent « on va y aller, on veut y aller ».
Mais est-ce que les scientifiques et les économistes n'ont pas un enthousiasme plus modéré?
Les scientifiques n'ont pas leur mot à dire, c'est très politique, mais il y a un argument, c'est de dire « il y a un programme de vol habité très ambitieux aux États-Unis qui, l'héritage d'Apollo, vous savez que les Américains consacrent 10 milliards par an sur les vols habités, c'est unique au monde ». La moitié de leur budget spatial civil consacré aux vols habités, l'Europe n'est pas du tout dans cette proportion, eh bien, il y a effectivement une force intérieure, on pourrait appeler ça un lobbying industriel, qui est de dire qu'il faut maintenir cette activité. Et la seule activité raisonnable au XXIe siècle et ambitieuse, c'est Mars, il n'y en a pas d'autre. Le problème, c'est que c'est un voyage aller-retour, donc 6 mois aller, 6 mois retour. Et en fait, si vous avez vu le film Seul sur Mars, il faut rester 1 an et demi sur Mars. Donc en tout, vous êtes à près de 2 ans et demi, presque 3 ans. Et c'est ça la grosse difficulté de l'homme sur Mars, c'est qu'il va falloir envisager des véhicules, des moyens, de la nourriture, de l'eau, pour tenir 2 ans et demi, 3 ans.
Mais comment l'organisme humain va-t-il supporter les radiations, les rayons cosmiques et toutes sortes de risques, dont le principal d'ailleurs est le mal de l'espace?
Vous savez, Tabarly avait le mal de mer, hein, et on s'adapte. Donc au bout de 3 jours, Tabarly cessait de vomir. Donc le mal de l'espace, on s'adapte, il n'y a pas de problème. Les radiations, c'est beaucoup plus sérieux. Donc il va falloir créer un comité d'éthique aux États-Unis pour dire comment on fait pour déroger aux normes. Souvenez-vous, Fukushima, ils ont relevé les normes pour éviter d'évacuer 1 million de personnes. Donc, en gros, pour l'homme sur Mars, il va falloir relever les normes. Il va falloir faire en sorte que les hommes qui vont là-bas auront des probabilités de cancer supérieures à 3% dans les 20 ans qui suivent. Et on va leur demander de signer une décharge, les engageant à ne pas faire un procès à la NASA dès qu'ils auront un cancer. Mais ils survivront, vous inquiétez pas. Simplement, 20 ans plus tard, ils auront des problèmes de santé. Pour vous donner une information qui va peut-être vous choquer, les experts américains sont arrivés à la conclusion que les femmes sont plus sensibles que les hommes en termes de radiation. Donc, malheureusement, il n'y aura probablement pas de femmes dans les voyages sur Mars. Et en plus, les hommes seront plutôt des quinquagénaires parce que quand ils auront 70-80 ans, après tout, c'est moins grave s'ils ont un cancer.
Enfin, dernière question, est-ce qu'arrivé à destination, on risque pas d'être très déçu par un environnement sans atmosphère, sans oxygène, sans eau liquide et où il y aura très peu de choses à trouver?
Alors, l'environnement, on le connaît. Donc là, il n'y a pas de surprise. Le fait qu'il n'y ait pas d'eau, pas d'oxygène, tout ça est parfaitement connu. Il va falloir le prendre en compte pour vivre un an et demi à la surface de Mars. Maintenant, votre question, c'est qu'est-ce que vont faire les hommes sur Mars ? Ça, c'est une bonne question. Aujourd'hui, elle n'est pas complètement abordée. Comme sur l'ISS, il ne faut pas oublier que les hommes, la première chose qu'ils font, c'est de consacrer au moins la moitié de leur activité à leur survie, c'est-à-dire à maintenir l'ISS en état de fonctionnement, et ça sera la même chose sur Mars. Il va falloir construire la base, surveiller qu'elle fonctionne bien, faire de la maintenance, et donc ça sera au moins la moitié de l'activité. Après, ils vont explorer, ils vont se promener en voiture, pressurisée, mais effectivement, ce n'est pas l'homme sur Mars qui va répondre à la question qui, nous, scientifiques, nous intéresse le plus, c'est est-ce que la vie est apparue sur Mars ? Je pense que ça va être traité au préalable par une mission automatique, sans homme, de retour d'échantillons. Et je pense que d'ici 10 ans, nous aurons ces échantillons et j'espère nous aurons la réponse.
Alors, si on maintient le projet, est-ce que l'escale sur la Lune est véritablement indispensable ?
Alors, l'idée de passer par l'orbite lunaire pour faire le plein d'ergol ou pour faire le plein d'eau est un schéma qui est tout à fait intéressant. Encore faut-il avoir trouvé de l'eau exploitable sur la Lune. C'est vraiment la question importante en ce moment et la NASA et l'Agence spatiale européenne s'y intéressent. Je dirais tout le monde s'y intéresse, tout le monde veut aller au pôle Sud et il faut savoir si on va pouvoir exploiter l'eau du pôle Sud. C'est une grande question, mais nous n'avons pas la réponse aujourd'hui.
Merci Francis Recard. Eh bien écoutez, encore une fois, vous avez été notre mentor parce qu'on est un peu perdu dans les questions spatiales et il fallait que quelqu'un de raisonnable et d'informé prenne la parole. Merci de l'avoir fait.
Merci à vous.
Jusqu'à midi, allô, ici Bouvard sur RTL.
Est-il devenu impossible pour les membres de notre exécutif, je pense au président de la République, au Premier ministre et aux membres du gouvernement, de vivre au crochet de ce qu'on appelle la princesse, c'est-à-dire les contribuables ? Bah, la question se pose depuis longtemps. Hein. Et il y a un ministre qui était d'ailleurs président de l'Assemblée nationale aussi, qui a répondu en démissionnant, c'est François de Rougy qui a été tué, pour reprendre une formule qui avait eu son heure de gloire à propos d'un fait divers, parce que François de Rougy a été tué par les homards qu'il voulait servir à ses invités et qui coûtaient trop cher compte tenu du budget qui est alloué à chacun de nos dirigeants. Alors attention, hein, des budgets annuels coquets, 150 000 euros pour un ministre, réduit, si l'on peut dire, à 100 000 pour un secrétaire d'État et évidemment la nécessité de tenir table ouverte, mais encore une fois avec des gens que la fonction ministérielle implique de recevoir et pas avec n'importe qui et notamment pour faire plaisir à ses amis. Encore que un ministre peut inviter des amis et surtout les membres de sa famille à condition de payer de sa poche les repas, ce que presque tous nos dirigeants font aujourd'hui. Alors, il y a eu de nombreuses affaires de dépenses de bouche. Hein. Il y a eu le fait que quand il était à l'hôtel de ville, Jacques Chirac ou son épouse qui faisait les courses et les menus a battu les records de dépenses avec, tenez-vous bien, 1 600 000 euros pour une seule année. Mais il faut dire que le grand Jacques raffolait de la tête de veau et de la bière mexicaine qui, paraît-il, coûte assez cher. Alors aujourd'hui, il faut faire beaucoup plus attention. Hein. D'ailleurs, les dépenses entraînées par le personnel, parce que bien sûr, ce ne sont pas les ministres qui préparent eux-mêmes le frichti, ont été limitées. Il y a pour la totalité du gouvernement 60 cuisiniers et maître d'hôtel. Or, il faut se souvenir qu'il y a 38 ministres, il y a 12 secrétaires d'État. Finalement, chacun n'a pas sa cuisine. Hein. Bon, il y en a qui vont au restaurant. Et là, quand ils vont au restaurant, on leur recommande de fréquenter d'autres établissements que les 3 étoiles. Si jamais ils emmènent leur épouse de payer le repas de celle-ci. Enfin, on est dans la spirale de l'économie. Et d'ailleurs, il y a de bons exemples. Hein. Je prends l'exemple de Gérard Larcher, qui est le deuxième personnage de l'État, puisque en cas de défaillance du magistrat suprême, c'est lui qui le remplace. Eh bien, Gérard Larcher, le président du Sénat, a gardé son petit logement personnel, a refusé l'appartement de fonction qu'on le mettait à sa disposition et fréquente davantage les petits bistrots que les grands restaurants. Alors, il y a eu, et on en a parlé à propos de l'affaire Rougy, il y a eu les grands crus entreposés dans les caves de l'hôtel de la Sey, l'hôtel de la Sey étant la résidence du président de l'Assemblée nationale. Quand il était à la tête de l'Assemblée nationale, Jacques Chaban-Delmas, et ça avait duré 10 ans, qui était aussi maire de Bordeaux, avait entreposé de très grands crus, des meilleures bouteilles, dans les caves de l'hôtel de la Sey. Je crois que ses successeurs n'ont pas laissé le temps de vieillir au bon vin et qu'aujourd'hui, nos réserves commencent un peu à s'épuiser. Alors, il y en a un qui n'a pas fait d'économie, c'est le président de la République, puisqu'il a dépensé l'année dernière 5 millions de plus que le budget qu'on lui affectait. Mais enfin, il a des justifications. C'est le nombre croissant des chefs d'État étrangers qu'il reçoit à sa table à l'Élysée et le nombre croissant des déplacements à l'étranger. Et tout ça coûte cher. Mais le couple présidentiel a à cœur de rembourser les repas pris par sa petite famille, et elle est assez nombreuse. Je vous rappelle que le président est marié avec une grand-mère. Et ensuite, il a à cœur de payer également la taxe d'habitation pour son appartement de fonction. Et puis, il rembourse les certains déplacements à titre privé, à bord d'avions et à bord d'hélicoptères. Donc, finalement, ça coûte cher, mais bon, sans doute, est-ce que la France ne peut se passer de ses dépenses qui a une réputation gastronomique à maintenir ?
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Quel changement dans notre vie quotidienne et dans nos habitudes de consommation ? Les canicules que nous venons de vivre ont-elles suscité ? Eh bien, écoutez, il y en a une qui me vient à l'esprit, c'est que la chaleur a fait fondre la banquise et multiplier les glaciers. Attention, les glaciers, j'entends par là les marchands de glace. Oui, aujourd'hui, c'est devenu de plus en plus courant de se délecter avec un petit cornet. Alors, je suppose qu'il est tantôt en carton, tantôt en pâte. Mais c'est quelque chose qui a le droit de citer aujourd'hui un petit peu partout et pas seulement dans les stations balnéaires. Alors bon, pour témoigner, Jean-Pierre Caron. Bonjour, Monsieur Caron.
Oui, bonjour, Monsieur Bouvard.
Alors, je me suis permis de vous déranger. Je sais que vous êtes très occupé, puisque vous travaillez 7 jours sur 7, de 11h30 à minuit, et que vous couchez même sur place.
Oui, exactement.
Sur place, c'est à Bandelieu, dans les Alpes-Maritimes, où vous avez ouvert une boutique très fréquentée à l'enseigne de Cascade de Glace. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous faisiez avant d'être dans le sud et d'être glacier ?
Bah écoutez, moi je suis d'origine du Nord, je suis né à Lille, et je suis arrivé dans le Sud il y a 4 ans donc pour ce glacier, et auparavant, je travaillais dans le marketing et la communication. Voilà.
Pourquoi avoir choisi de vendre des glaces plutôt que des lunettes de soleil ou des vélos ?
Bah écoutez, c'était une opportunité qui s'est présentée à notre famille. Nous allons tous les ans sur un glacier qui était à la Napoule. Et en discutant avec la propriétaire, qui avait l'âge de la retraite, nous dit « je vais vendre mon glacier ». Et c'est de cette manière qu'on a saisi l'opportunité donc pour le reprendre et ainsi de déménager dans le sud de la France.
Bon, quelle clientèle? Plus d'enfants que d'adultes?
Plutôt l'inverse, on a beaucoup plus d'adultes. Les adultes sont beaucoup plus friands, si je veux dire.
Combien de parfums différents?
Ah, nous avons plus de 40 parfums.
Vous en avez inventé un, la glace du mineur, mais ça c'est un clin d'œil à un lointain aïeul.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que mes deux grands-pères étaient mineurs et j'ai voulu donc leur rendre hommage en créant donc une glace du mineur. Cette glace du mineur, elle est toute noire, elle est faite avec donc du charbon végétal. Donc nous avons créé le goût en mélangeant subtilement trois ingrédients, qui est donc la chicorée, le caramel et le spéculoos, des ingrédients que mes grands-pères consommaient quasiment quotidiennement.
Vous ne fabriquez pas vous-même?
Voilà, moi, un petit peu à l'image d'une chanson, vous avez l'auteur, le compositeur. Moi, je suis finalement l'auteur de cette glace et le compositeur, si je puis dire, c'est Stéphane Vindray. Voilà.
Est-ce qu'en dehors de vos dégustations professionnelles, vous avez une consommation personnelle importante de glace?
Ah ben, on vient vite addict, si je puis dire, des glaces, et c'est vrai qu'on en consomme quotidiennement. Bon, nous sommes ouverts d'avril à octobre, par conséquent, le reste de l'année, on se limite. Donc, mais néanmoins, lorsqu'on est ouvert, oui, c'est quasiment tous les jours des glaces, mais on fait également des gaufres et des crêpes, et donc là également, on se lâche là-dessus.
Alors, une dernière question. Si la chaleur continue à progresser, est-ce qu'il ne faudra pas envisager un jour, et vous et puis d'autres spécialistes qui viendront s'installer un peu partout, une glaciation générale de nos nourritures?
Ben, écoutez, c'est un peu déjà, je pense, ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on arrive à trouver du surgelé de pratiquement toutes les nourritures, mais c'est vrai que non, sans doute de plus en plus pour chercher de la fraîcheur. Enfin, en tout cas, je le pense ainsi.
Bon courage, Monsieur Caron.
Merci beaucoup, Monsieur Bouvard. À très bientôt.
Jusqu'à midi, allô, ici Bouvard sur RTL.
Une question dont la réponse devrait faire plaisir à quelques contribuables. Quels sont les petits impôts et les petites taxes qui vont disparaître dans quelques jours? Ce sera d'ailleurs le chant du cygne de Gérard Darmanin qui va troquer le ministère des Comptes publics contre la mairie de Tourcoing. Alors, un bric-à-brac de petites taxes, de petits impôts, qui d'ailleurs ne représentaient pas grand-chose pour le trésor public, puisqu'il rapportait bon an mal an 150 millions d'euros. Le détail de ce bric-à-brac fiscal vaut, je crois, le déplacement. Il y a des taxes qu'on ignorait hein, et qu'on avait instituées depuis des années et dont on s'aperçoit que, il a fallu le temps, qu'elles rapportaient moins qu'elles ne coûtaient à collecter. Alors, il y a la taxe pour l'ajout de sucre à la vendange. Vous pouvez croire d'ailleurs que ça suffisait de devoir dépenser des kilos de sucre pour préparer certains crus. Ben non, l'État y a ajouté une redevance. Il y a la taxe pour les plants de vigne. Vous voyez que les viticulteurs ne sont jamais oubliés. Il y a la taxe sur les farines et sur la semoule. Il y a la taxe sur les engrais quand ils sont produits par les palmipèdes. Il y a la taxe sur les produits de la pêche. Il y a les prélèvements sur les jeux radiophoniques et télévisés. Il y a les prélèvements sur ce que rapportent les numéros surtaxés. Ah, il y avait une taxe sur les engrais lorsqu'ils sont produits par des palmipèdes. Oui, moi ça fera plaisir aux canards. Il y avait des taxes sur tout, hein, et sur des produits qui n'étaient pas très consommés, auxquels on ne pensait pas toujours, et qui coûteront peut-être un peu moins cher, puisque finalement c'est le consommateur qui payait l'addition fiscale. Alors, il y avait des contributions au poinçonnage des métaux précieux. Il y avait une taxe sur les résidences mobiles terrestres. Oui, je dis bien résidences mobiles terrestres. C'est-à-dire, bon, les petites caravanes, hein, je pense qu'on aurait mieux fait de les oublier, et ben, ce sera fait désormais. Il y avait un droit d'immatriculation des opérateurs et des agences de voyage. Il y avait une taxe à la batellerie artisanale. Il y avait une taxe sur les appareils de reproduction. Rien de sexuel, hein. Et alors, il faut aussi signaler qu'il y a certaines taxes et impôts qui ont été provisoirement sauvés, c'est-à-dire qu'il faudra continuer à acquitter. Eh bien, d'abord, la redevance sur les activités nordiques, je suppose que vous ne connaissez pas, eh bien, c'est le ski de fond. Ah oui, on payait une petite taxe sur le ski de fond, et bon, c'est un sport qui est tout à fait honorable et qu'il n'y a aucune raison de pénaliser. Ensuite, on va conserver la taxe sur les pilotes d'un haut de tension et sur les balisages et sur les frais funéraires. Et puis enfin, on conservera la taxe sur les eaux minérales. Bon, mais la Cour des comptes a prévenu. Il ne faut pas remplacer les taxes qu'on a supprimées par de nouveaux impôts. Oui, elle s'est souvenue, la Cour des comptes, que lorsqu'il a été élu, M. Macron avait supprimé 3 taxes, mais qu'il en avait créé 8 nouvelles. Ben, il ne faut pas que ça se reproduise, hein, parce que le contribuable, il sait compter.
Allô, ici Bouvard sur RTL.
Les mots de la rentrée sont au nombre de 2. Ce sont la déforestation et la reforestation. Alors, sachant que la déforestation peut ravager des milliers d'hectares en quelques heures et que la reforestation prend 20 ans, les principaux responsables, on les connaît. C'est la sécheresse du climat. Ce sont les pyromanes, ce sont les imprudents. Ce sont aussi, et ça, je voudrais le signaler parce qu'on en parle rarement, les best-sellers. Alors, c'est formidable de vendre beaucoup de livres, et c'est d'ailleurs, ça exige beaucoup de talent, mais il y a un prix à payer. Et au premier rang de ces best-sellers figure cet été Nicolas Sarkozy. Il a vendu 240 000 exemplaires de son livre intitulé « Passion ». Mais pour imprimer ces 240 000 exemplaires disponibles toujours sur Amazon, il a bien fallu sacrifier des forêts sans doute situées en Amazonie. Ouais, vous voyez, Amazon, Amazonie, le cycle est bouclé. Alors, chemin faisant, les Français ont découvert ce que la plupart ignoraient, et notamment votre serviteur, que notre cher et vieux pays possédait une frontière commune de 730 km avec le Brésil, ce qui a dû rendre plein de fierté les habitants de Ménilmontant. À dimanche prochain!
Merci beaucoup Philippe, effectivement on vous retrouve dimanche prochain à partir de 11h30 sur RTL. Dans un instant, le grand jury présenté par Benjamin Sportouche qui aura pour invité Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale.